Boulevard 101, Marceau le matin, 8h47 exactement. Pascal, on s'en parlait quand on est revenu de nos vacances de Noël. Hey, t'es-tu tombé au combat, toi? Ouais, moi, ça a duré 48 heures.
Parce que nous, on a eu un genre de cohabitation avec un coloc non invité. Un genre
c'est
de
ça.
Quelque chose qui nous gratouillait le fond de la gorge pendant longtemps. Puis on tenait le cap, on tenait le fort ici
exactement.
À Boulevard 101. Fait qu'on n'avait pas le temps. Puis on se disait, ouh, quand on va tomber là, dans nos 4 jours de congé. Ouais. Est-ce qu'on va attraper de quoi? On pensait revenir en paix,
ouais.
Mais c'est pas juste nous qui sommes revenus. Il y a aussi Max Larouche.
Max Larouche, le chanteur de karaoké, où il va chercher des microbes partout dans le micro du Ninkasi.
Ah bah oui.
Qui est revenu avec son rhume, sa grippe, appelons ça comme on veut.
Ils sont au moins 3 dans son corps ce matin, honnêtement,
ah,
à constater
oui,
son état. Puis là, notre prochain invité a dit « Ouais, ben. À travailler dans un espace clos comme vous le faites, ça se peut là,
c'est ça.
Que ça vous concerne les prochains jours.
Et je suis convaincu qu'il y a plein d'auditeurs et d'auditrices que la grippe les a touchés durant le temps des fêtes. Moi, c'est Oli à la maison, le gars à Val, qui a été KO du 23 au 26. Écoute, il dormait partout. Il y avait de la difficulté à bouger, pauvre enfant. Et là, bien justement, on a amené Pascal Renaud, qui est urgentologue à l'hôpital L'Enfant Jésus, ici à Québec, pour nous parler de la situation dans les urgences, de la situation de l'influenza. Pascal, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci.
Merci beaucoup d'être rendu disponible pour nous, Pascal. Premièrement, là, on a une question très personnelle, moi et Pascal, mais avec Max qui s'est mouché toute la matinée devant moi qui est à la console, à côté de Pascal, est-ce qu'on est à risque à l'heure actuelle?
Malheureusement, oui, vous êtes à risque. Là.
Mais ça ne veut pas dire qu'on va l'attraper.
Non, vous avez peut-être des anticorps déjà pour vous protéger, mais vous êtes à risque parce que il y a un virus qui est peut-être un influenza, peut-être juste un rhinovirus, mm-hmm. un rhume de base, là, comme on peut voir. Mais le fait que vous soyez dans un espace clos, ça vous met plus à risque.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être se protéger? Parce qu'il y a souvent des collègues
ouais.
hein, dans un espace de bureau sur lequel on n'a pas de contrôle qui viennent travailler malades. Puis, bon, pour Max, il est quand même capable d'être efficace, efficient en ce moment.
Exactement.
On aime quand même être avec lui. T'sais, des fois, on n'a pas le choix. Surtout dans votre domaine, d'après moi, il y en a une couple qui n'ont
ouais.
pas trop le choix. On peut faire quoi?
Bien, nous, ce qu'on fait à l'hôpital, on se met des masques. Le masque pour les virus est quand même assez efficace là, pour nous protéger.
Se protéger ou protéger les autres? C'est en pandémie, on
en fait,
disait souvent, on vous protège
les deux,
les autres.
Ça dépend pour quel type de virus puis la taille des virus.
OK.
Le COVID, le problème, c'était qu'un masque, chirurgical n'était pas suffisant parce que le virus était trop petit. L'influenza est quand même bien protégée par un masque actuellement. C'est sûr que pour faire de la radio, avoir un masque, peut-être que ce n'est pas l'idéal. Là.
Mais... Je pourrais penser
a...
pour demain.
Oui, on a déjà essayé de parler avec un masque. On va essayer ça. Voir.
Mais nous autres, à l'hôpital, c'est ce qu'on fait, là, parce que mm-hmm. sinon, on serait tous KO actuellement. Mm.
Exactement. Les urgences débordent. On a vu beaucoup dans la région de Montréal. Tu me parlais de l'Abitibi. À Québec, c'est quoi la situation à l'heure actuelle?
Bien, j'ai regardé juste avant d'entrer. Là, il y a à peu près... entre 110 et 130 % de taux d'occupation okay. des urgences actuellement.
Ce qui est normal à cette période-là?
Bien, à chaque année, on vit à peu près ça, là, parce que dans le temps des fêtes, les gens se rencontrent, les gens se partagent des virus, puis il y a des gens qui sont plus malades que d'autres, des gens qui sont plus fragiles. Un enfant de 15 ans, un jeune adulte de 20 ans, un influenza, bien, il va avoir l'impression qu'un camion lui est passé dessus, mais il va survivre, puis il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas besoin de consulter nécessairement à l'hôpital. Il va prendre des Tylenol, d'Advil, il va rester à la maison. Une personne âgée, fragile, des fois qui a déjà des problèmes pulmonaires, bien, ça peut être juste la petite différence qui manque pour qu'il soit obligé d'être hospitalisé. Là.
Fait qu'on n'a pas à juger, par exemple, quelqu'un qui s'en va à l'urgence pour une grippe ou quoi que ce soit, parce que longtemps, on disait « Ah, restez mm-hmm. chez vous » et tout ça. Il y a quand même l'inquiétude que ça soit autre chose. Il y a l'inquiétude aussi que ce soit pire pour une personne versus une autre.
Oui, oui. Il peut avoir des pneumonies, ça peut être une influenza, des pneumonies. On a encore de tout ça, là, puis... Souvent, c'est l'état général qui est le plus important. Là. Donc, si je fais de la fièvre, mais que ma fièvre diminue avec du Tylenol puis de l'Advil, ben vous allez venir à l'urgence, puis on va vous dire, ben continuez le Tylenol puis l'Advil. Par contre, si vous n'êtes plus capable de manger, vous vomissez, vous vous déshydratez, ben, à ce moment-là, c'est important que vous veniez dans une salle d'urgence. Puis moi, c'est le message que je veux lancer aux gens aujourd'hui, c'est oui, il y a du monde dans les urgences, mais si vous êtes très malade puis vous êtes inquiet, privez-vous pas de venir en disant ben, l'urgence est pleine.
Oui, à ce moment-là, est-ce qu'on communique mal? Parce que tu sais, depuis ce matin, Pascal, que Max nous lit le communiqué et Santé Québec rappelle aux gens d'appeler au 811 avant. C'est-tu la bonne démarche ou vraiment avec les symptômes que tu mentionnes là, je me dis, hey, écoute, je vais y aller à l'urgence. Là.
Si les symptômes sont légers, 811 va vous donner des bons conseils. Mais je regardais hier, il y avait 2 heures d'attente aussi pour parler au 811.
Ouais, c'est ça.
Donc, les gens, il y en a qui peuvent se tanner. Il y a des, si vous êtes dans un état général qui est quand même bon, mais vous êtes inquiet puis vous voulez avoir une opinion, mais le gap est quand même utile pour ça, là. Il va y avoir probablement 48 heures, des fois 72 heures avant d'avoir un rendez-vous. Ou peut-être qu'en parlant avec l'infirmière du GAP aussi, il va pouvoir vous dire que c'est pas nécessaire.
Mm-hmm. Le GAP étant la plateforme, justement, où je peux prendre rendez-vous dans les 100 rendez-vous. Là.
Si vous n'avez pas de médecin de famille, si vous avez un médecin de famille, déjà, vous êtes inscrit individuellement, bien, c'est avec cette clinique-là puis ce médecin-là que vous devez faire affaire, soit le 100 rendez-vous, soit le médecin.
Pas toujours facile, par exemple. Hein?
On dit ça, mais souvent, les gens n'essaient pas.
Parce qu'ils se disent que c'est pas facile.
Exact. Dans le temps de Noël, il y a des médecins qui m'ont dit qu'il y avait des plages vides parce que les médecins, probablement que leurs patients pensaient qu'ils étaient en congé, puis ils regardaient pas si des rendez-vous étaient libres.
Donc, c'est vraiment une des problématiques. Là. À l'urgence, présentement, vous manquez de personnel à l'année. Là, en manquez-vous plus parce que il y a des gens malades?
Il y a quelques infirmières, infirmiers, même médecins qui ont été touchés par l'influenza puis qui ont dû se faire remplacer par des corps de travail. Donc, oui, ça touche tout le monde. Là. On n'est pas à l'abri, nous autres non plus. Puis, ça fait qu'il y a un peu moins de personnel, mais... C'est à peu près comme d'habitude. On manque toujours de personnel. C'est un peu chronique, comme le débordement à l'urgence est un peu chronique. Là.
Je lisais aussi hier, il y a le manque de personnel, mais il y a le manque de lits aussi dans les différents hôpitaux.
Oui. Bien, le fait qu'il y a plus de patients vulnérables qui ont l'influenza, qui ont été hospitalisés, bien, il y a moins de lits. Donc, les patients restent plus longtemps à l'urgence que ce qu'on voit habituellement.
Donc, ça fait en sorte, là, justement, ça crée ce fameux débordement-là?
Ben oui, parce que si les patients ne peuvent pas monter à l'étage, ben ils restent à l'urgence. Puis une fois qu'ils sont à l'urgence, ben on a des patients qui ont la grippe à l'urgence, qui peuvent la partager avec les autres patients, parce que on dit que le studio ici, c'est un petit endroit fermé, mais une salle d'urgence, ça a plein de virus, puis c'est pas si grand que ça non plus. Là.
Oui. J'avais fait auparavant un reportage avec un urgentologue. J'avais passé la journée avec cette personne-là, puis heureusement, j'ai pas vu de traumatisme crânien ou quoi que ce soit. C'est ma grande crainte, mais ça a permis des conversations. Mais là, on remonte à il y a 7-8 ans, puis j'en parle avec Jean-François. Deux fois, nous autres, on prend un café puis on commence à jaser d'expérience pour être capable de bouncer en ondes ensemble. Puis c'est un urgentologue qui allait à la retraite, donc il était beaucoup plus ouvert à me dire des choses. C'était la problématique majeure, les lits pleins au premier étage. Il disait, si vous pensez que les urgences sont pleines, c'est pas ça le problème. Les urgences sont pleines parce qu'on n'est pas capable de monter les patients dans des lits. Les civières sont prises dans le corridor, etc. Là, on recule de 7-8 ans. Là. Pourquoi est-ce qu'on est encore là? Bien, est-ce qu'on vous consulte sur le terrain? Est-ce qu'on va voir dans les hôpitaux? Est-ce qu'on vous demande ce qu'il pourrait faire pour être...
Je crois que le ministère vient voir dans les hôpitaux. Par contre, nous, on n'est pas consultés, là, les médecins de terrain, pour voir comment on peut faire.
En 23 ans de carrière, jamais Dr. Renault n'a été rencontré, ne serait-ce que 5 minutes, pour demander qu'est-ce que vous voyez constater sur le terrain.
Nous, on en parle dans des réunions de service, les médecins de l'urgence ensemble, puis on élabore des pistes de solutions. Entre autres, une qu'on a souvent nommée, qui est malheureusement jamais réalisée, c'est que les patients qui sont admis, qui restent à l'urgence pendant des fois plus de 24 heures, bien, est-ce qu'ils pourraient être à l'étage, en haut, même dans un corridor d'étage par rapport à un corridor d'urgence, où on aurait un peu moins de pression sur nous autres pour les garder? Puis ça fait partie d'un plan de contingence de l'hôpital, mais ils ne l'appliquent jamais. Là.
Est-ce qu'ils ont peur que si on monte des gens, l'urgence paraisse moins pleine et que ça engorge encore plus et encore?
Je ne sais pas qu'est-ce qui les motive à ne pas aller vers ça, mais effectivement, ça peut arriver, ça, parce que nous, à chaque fois qu'on a augmenté le nombre de médecins à l'urgence, bien, au début, on a eu une diminution des délais de prise en charge parce qu'on avait un médecin de plus pour travailler. Mais après 6 mois, on était revenu au même délai parce que la population venait plus vers notre salle d'urgence dans ces cas-là. Là.
Pascal Renault, tu es urgentologue, justement, à l'hôpital L'Enfant-Jésus à Québec.
Juste préciser, je suis médecin de famille qui travaille à l'urgence.
Médecin de famille qui travaille à l'urgence. Chose, je m'excuse. Qu'est-ce que...
On va pas faire un sa maman dans l'onde, là.
Ouais, c'est ça quand même. Hein? Quand même, ça n'aurait pas de sens. Qu'est-ce que ça apporterait comme différence opérationnelle, justement, ce que vous privilégiez, c'est-à-dire de monter les gens à l'étage dans un corridor plutôt qu'être dans le corridor de l'urgence?
Ben, en fait, pour nous autres, ça libérerait des lits à l'urgence pour que les patients puissent être couchés plus rapidement. Ça libérerait plus rapidement les ambulanciers qui pourraient aller s'occuper d'autres patients malades aussi, parce que c'est pas rare actuellement que je vois un patient qui passe 4-5 heures sur une civière d'ambulance avant d'être couché dans la salle où je travaille.
Et là, pendant ce temps-là, l'ambulance n'est pas en train d'aller régler un autre cas sur la route. Ouais, ça, les jeunes.
Puis on commence pas les soins tout de suite non plus. On peut pas, même si on va en avant pour voir le patient sur la civière d'ambulance, ça arrive qu'on fait ça. Bien, il n'y a pas de personnel qui peut relever nos prescriptions, faire les imageries, tout ça. Donc, tant qu'il n'y a pas sa civière, ce patient-là qui est quand même malade, bien, à moins d'être très malade, puis passer par la réanimation puis avoir des soins immédiats, bien, il peut attendre là, puis il y a un retard sur nos soins.
Avez-vous assez de personnel pour qu'il y en ait dans les corridors aux étages?
Je connais beaucoup moins là, ce qui se passe à l'étage. Donc, je sais qu'ils ont quand même un travail avec plusieurs patients pris en charge à l'étage. Peut-être que eux, puis c'est peut-être ça que la direction craint, là, parce que d'en ajouter à quelqu'un qui en a déjà 10 à l'étage, c'est peut-être complexe.
Oui, exactement. C'est un manque de personnel là, qui est un peu partout. Comment est le moral des gens, justement? T'sais, là, toi, tu es là depuis 23 ans. Tu on propose des solutions, ça arrive pas. On manque de personnel. T'sais, comment est le moral présentement dans nos urgences?
Bien, c'est à peu près... On vit la même chose à chaque année, à chaque jour, à chaque mois, je vous dirais. Donc, on s'habitue un peu à ça. On aimerait ça que ça aille mieux. On aimerait ça qu'il n'y ait pas d'attente, parce que nous aussi, quand on voit un patient qui a attendu 4 heures, généralement, il n'est pas tant de bonne humeur. Donc, c'est plus facile quand il n'y a pas d'attente, puis on voit un patient qui est content de nous voir rapidement, puis on est content de les voir rapidement aussi. Mais quand il y en a 30, 40, 60 dans la salle d'attente, bien, malheureusement, on n'est pas capable de les voir tous rapidement, puis on se fie au triage pour voir les plus malades en premier. Ouais. C'est le plus important, là.
On converse souvent avec les auditeurs pendant une entrevue. Oui. On a le pouls en direct de ce qui se passe dans notre conversation. Là, en ce moment, ce qui ressort avec les auditeurs au 88-971-1021, c'est beaucoup de gens durs, parce qu'on a l'impression que le système de santé n'est pas capable de répondre aux besoins. Il y a des gens aussi qui disent que depuis 2 ans, le gap est plus facilement accessible. Là, alors, il y aurait eu amélioration à ce niveau-là. Mais 23 ans de votre carrière sans consultation, de ceux qui sont au-dessus de votre tête, ça résonne énormément.
Oui, vraiment.
Peut-être que c'est là où on n'arrive pas à comprendre. En plus, avec un plan de remaniement de santé qu'on a vu dans les derniers mois, qui a vraiment fait l'unanimité, qu'on n'ait pas fait. Ça peut-tu que ça achoppe à chaque fois à cause de ça? Ou c'est parce qu'il y a trop de groupes? Ou... Je sais qu'on ne veut pas vous demander, c'est pauvre vous coincer là, à faire de l'opinion ce matin, mais on veut comprendre.
Mais en fait, il y a beaucoup de structures qui ont évolué dans les 30, 23 dernières années. Je vous dirais qu'on était plus comme corps médical consulté en début de ma carrière, où on avait une réunion de service, on prenait une décision. Le chef de l'équipe d'urgence allait voir l'infirmière-chef. On disait, bon, on va passer, on va faire ça maintenant. Puis une semaine après, on avait un changement qui était fait. Maintenant, il y a beaucoup d'étapes à franchir. Il y a beaucoup plus de fonctionnaires en santé. Puis il faut passer à travers tous ces étages-là. La dernière étage qui a été mise, c'est Santé Québec. Donc, on est quand même... on n'est pas aussi agile qu'on l'était pour faire les changements.
Donc, on rêve pas ici, derrière nos micros à la radio, quand on dit, dans le domaine de la santé, on a grossi les organigrammes, on a grossi la structure, mais on n'a pas amélioré ce qui se passe sur le terrain.
Bien, on a quand même un peu amélioré ce qui se passe sur le terrain, mais pas autant qu'on aurait pu. Puis moi, Jean-François, tu le sais, hein, j'étais content de voir Santé Québec au début. Actuellement, je vois pas d'effet concret de ce que ça donne. Je suis un peu déçu là, par rapport à ça. Trop de chefs, pas assez d'Indiens, c'est clair. Depuis que la CAQ est là, il y a 3500 fonctionnaires de plus en santé. C'est souvent des professionnels de la santé qui pourraient donner des soins directs aux patients.
Et vous voyez pas de différence, vous, suite à ce remaniement d'organigramme-là?
Non, pas du tout.
Ça fait combien de temps?
Que Santé Québec est là?
Bien, que vous attendez de voir les résultats de ce qui a été mis en place, parce qu'on ne peut pas demander nécessairement les résultats
moi,
la première année.
Moi, je dirais, dans les 15 dernières années, ça stagne, puis ça stagne versus se détériorer un petit peu. Mais les patients sont plus âgés, les patients sont plus malades aussi que quand j'ai commencé ma pratique il y a 23 ans.
Oui, en effet, le fait que la population vieillisse fait en sorte que les gens sont plus affectés. Ouais. Et justement, pour revenir au sujet de base, plus affectés par la grippe et l'influenza.
Exact, parce que quand j'ai commencé ma pratique, s'il y avait un patient de 100 ans qui était dans notre salle, tout le monde venait le voir pour voir c'était quoi un patient de 100 ans. Maintenant, la journée qu'on n'a pas un patient de 100 ans dans l'urgence, c'est là qu'on remarque qu'il n'y en a pas. Là. Donc,
bon, quand même,
la population vieillit, puis la population... Puis nous, je suis un peu biaisé, parce que moi, je vois une population qui est malade. Là. Mm-hmm. Mais de mes collègues qui sont en bureau ont des patients de 100 ans qui ont encore leur permis de conduire puis qui vont bien.
Ils sont encore en santé. Yes. Pascal, en terminant, rappelle-nous justement les symptômes à privilégier si je me dis est-ce que je vais à l'urgence ou non. T'sais, tantôt, tu parlais de déshydratation. Rappelle-nous-les là, pour que les gens puissent se présenter quand même et ne restent pas à la maison dans un état lamentable.
Bon, mais si vous êtes assez malade de ne plus être capable de vous mobiliser, si vous faites de la fièvre là, en haut de 39, puis que ça ne répond pas aux antipyrétiques, là, Tylenol, Advil, pour donner des noms commerciaux, là. Si vous n'êtes plus capable de manger ni boire là, depuis plus de 24 heures, puis que vous voyez c'est des enjeux. Puis plus on est vulnérable, bien, plus il faut penser à consulter plus tôt. Les jeunes en santé, là, entre 10 ans et 50 ans, vont probablement être capables de tout faire ça chez eux, là, un influenza. Puis cette année, l'influenza, bien, il est beaucoup plus fréquent parce que le vaccin n'est pas si bon que ça cette année. Les souches qu'ils ont pris pour le faire n'est pas parfaite. Donc, les gens sont plus malades, là, puis l'attrapent plus, l'influenza, cette année.
Merci beaucoup, Pascal Renaud, qui est médecin de famille à l'urgence de l'enfant Jésus, ici à Québec, aussi président de la Fédération des médecins omnipraticiens à Québec. Ouais. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Merci de nous avoir informés.
Merci pour la disponibilité. C'est le fun aussi d'avoir vraiment. Des gens qui travaillent en santé. Je sais que vous avez un devoir de discrétion, mais on apprécie beaucoup que vous passiez.
On va te souhaiter pour l'année 2026 moins de chefs puis plus de gens sur le terrain.
Merci beaucoup. C'est mon souhait.
Je sais que ça va être difficile, mais on va te le souhaiter quand même, Pascal. On fait une courte pause. Non, Pascal, tu me fais signe. Hey, Jeff, il y a quelque chose d'important.
Oui, on attendait cette prise de parole-là. On se demandait à quel moment on savait